Alors bonjour à tous, on va essayer de démarrer maintenant cette table ronde consacrée aux tentacules de la résistance, c'est-à-dire aux efforts de coordination sur les luttes contre les entrepôts, la logistique, le transport de marchandises, le réseau routier. Donc moi je vais animer cette table ronde, c'est un peu improvisé donc soyez indulgents. Je suis rédacteur en chef du magazine Socialterre, on avait consacré un petit numéro à la logistique, donc c'est pour ça je pense qu'on m'a appelé à l'aide. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer cette table ronde d'abord un petit temps avec Mathieu Quay, ici présent. On va faire un petit peu un cadrage du sujet assez rapide, de 10 minutes, un quart d'heure. Puis ensuite, on va laisser un peu la parole un par un aux différents collectifs ici présents pour qu'ils expliquent leur combat, leur situation. Et voilà, leur regard sur ce sujet-là, qui est assez divers à chaque fois, qui part d'endroits géographiques et de luttes très différentes. Ensuite, on échangera un petit peu, un peu plus librement entre nous. Et ensuite, on ouvrira la parole au public, comme à chaque fois. Voilà, donc je vais commencer avec Mathieu Quay, qui est l'auteur d'un des rares livres consacrés à la question logistique en France, sous un angle un peu sociopolitique, on va dire ça rapidement, qui s'appelle Flux, qui a été publié aux éditions Zone il y a quelque chose comme 2 ans maintenant, 2021, je crois, que je recommande, qui est un très bel ouvrage. Dedans, tu fais un petit peu l'histoire de la question logistique, depuis le Moyen-Âge jusqu'à le tournant du XXe siècle. Tu reviens sur les différentes composantes. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de revenir là-dessus. Donc bah, déjà, question très basique, mais d'où vient le terme de logistique et à quel moment il a pris l'importance qu'on lui connaît aujourd'hui?
Merci beaucoup. Alors, donc, quelques éléments de cadrage que je vais faire assez bref. Donc la logistique, c'est d'abord un art militaire. Hein. L'origine du terme est un peu complexe, mais disons dans l'Antiquité, c'était avant tout un mode de gestion et très rapidement de gestion des affaires de la cité et de gestion des affaires militaires. Et au fil des siècles, on va dire, la logistique, ça a été l'art du transport des personnes, des animaux, des ressources qui étaient nécessaires en cas de conflit, de façon à organiser au mieux la répartition de ces ressources qui étaient nécessaires pour les conflits. Donc il y a eu, quand on parle du maréchal des logis, donc le maréchal des logis, c'est une fonction qui est en appui de l'état-major et qui prend en charge toute l'organisation de la circulation des biens qui sont nécessaires à ces conflits. À partir de là, je saute au XXe siècle parce que c'est à partir de là que ça devient important pour nous. Un gros tournant de ce travail de la logistique a eu lieu au moment de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était un conflit qui était très étendu et pour lequel on avait besoin d'une grande puissance de calcul pour arriver à répartir les ressources sur un front, sur un autre, pour faire circuler des pièces détachées, de sous-marins, de navires, pour faire circuler des bêtes et de la nourriture d'un front à l'autre. À partir de là, on a mobilisé un grand nombre de personnes pour essayer de penser comment est-ce qu'on pouvait assurer cette répartition des ressources nécessaires au conflit. Et c'était les débuts de l'informatisation, de la mathématisation à grande échelle, donc des grandes bases de données qui permettaient d'affecter les ressources à un point ou à un autre. Et un grand nombre, en particulier du côté américain, mais pas seulement, au Japon, en Allemagne bien entendu, on a eu un grand nombre d'acteurs qui se sont impliqués dans un nouveau type de recherche qui s'appelle la recherche opérationnelle et qui vise à assurer une circulation optimale des biens. Donc l'objectif de cette recherche opérationnelle, c'était d'optimiser comment est-ce qu'on va faire circuler les biens d'un site à l'autre. Donc on a mobilisé toutes ces personnes, disons des grands chercheurs, physiciens, mathématiciens, économistes, des grandes universités, notamment américaines, pour faire ce travail, pour essayer de produire des modèles et pour essayer de proposer une manière de penser cette allocation optimale des biens. Donc ça s'est passé pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. On a enchaîné avec la guerre froide et au cours de ces années, en fait, les personnes qui ont été intégrées au corps militaire, qui travaillaient pour les grandes corporations militaires du type Rand Corporation, par exemple, se sont retrouvés en lien avec les universités de management à Harvard ou ailleurs et ont commencé à appliquer le mode de réflexion donc, qui était issu du militaire au milieu du business et au management. Donc d'abord pour gérer des inventaires dans la grande distribution, pour essayer de penser l'allocation des ressources en personnel dans une usine en fonction des saisons, en fonction de la demande, en fonction de l'offre qu'on voulait produire. Et donc dans les années, à partir des années 50, s'est mis en place un mode de pensée logistique qui n'était plus seulement de l'ordre du militaire. Donc le militaire, sachant que le militaire n'était pas vraiment contraint par les ressources financières, puisqu'il s'agissait de tout mettre, de mettre toutes les forces financières, toutes les forces économiques au service du conflit. À partir des années, de la fin des années 40 et des années 50, cette pensée logistique, elle a commencé à s'appliquer au champ de la répartition des biens économiques. Ce qui est important dans cette manière de voir la logistique, c'est qu'en fait, c'est construit un modèle qui est très lié avec les notions de systémique, de boucle de rétroaction, feedback, toute cette science qui s'est constituée dans les années 40 et 50. Et cette pensée logistique, elle va définir toute institution comme un système qui gère des flux entrants et des flux sortants, et qui doit les allouer de la manière optimale. Et donc cette notion d'optimalité, évidemment, elle reste à définir parce qu'elle est encore très floue. Mais l'idée, c'est d'arriver à gérer les circulations de biens de la manière la plus satisfaisante dans un certain champ de paramètres. Donc à partir de là, on va dire que du point de vue conceptuel, la pensée logistique a commencé à s'appliquer de telle manière qu'on a défini de plus en plus d'institutions, de plus en plus d'organisations, de plus en plus de groupes comme des systèmes qui ont des flux à gérer, des flux entrants et des flux sortants. Et là, je fais un espèce de saut dans les années 90 et 2000, juste pour vous montrer que la pensée logistique s'applique à peu près à tout aujourd'hui. On gère des flux de migrants. Il y a des textes sur les institutions hospitalières qui définissent très précisément les personnels comme les patients, comme des flux qu'il s'agit d'optimaliser. Et donc en fait, l'argument un petit peu que je défends dans le bouquin, c'est qu'on a une extension qui est passée progressivement du domaine militaire au domaine économique et qui en fait ensuite s'est appliquée à peu près à l'ensemble de la société dans différents domaines, avec la même façon d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire circuler des entités, des flux, de la manière la plus efficace et la plus rationnelle possible. Alors quand je dis rationnelle, c'est évidemment une rationalité technique. Il n'y a pas forcément des critères précis derrière, ou en tout cas ces critères, ils évoluent au fil des années. Et c'est là qu'il faut revenir à un autre temps de l'évolution de la réflexion logistique. C'est, disons, les années 70-80, l'émergence du néolibéralisme, la multiplication des échanges internationaux à partir des années 80 et 90, au cours desquels cette optimalité, elle a pris une forme. Donc on avait déjà le juste à temps, l'idée du zéro stock, mais il y a eu aussi un ensemble de décisions qui ont été prises dans ces années sur le droit du travail, sur les législations en matière de commerce international, qui ont permis en fait de formaliser ce qu'on voulait entendre par une circulation optimale des biens. Aujourd'hui, il faut savoir que la Banque mondiale produit chaque année ou tous les deux ans, je ne sais plus, un classement des pays en fonction de leur performance logistique. Et donc ce classement, il s'appuie sur un certain nombre de critères, la qualité des routes, est-ce que les douanes sont efficaces, il y a une quinzaine de critères différents qui permettent de calculer la performance logistique des pays et la façon dont ces pays affectent les ressources de la façon optimale selon les critères définis par la Banque mondiale et par les grandes institutions néolibérales. Donc ça, c'est le premier point important, c'est qu'en gros, la logistique, c'est, je dirais pas avant tout, mais c'est de façon très importante une façon de penser l'allocation des ressources. C'est une façon tout à fait liée au domaine marchand, mais qui en même temps s'applique pas forcément à partir d'une réflexion sur les coûts, c'est-à-dire que les coûts rentrent en ligne de compte, mais il y a un ensemble d'autres critères qui peuvent évoluer et qui sont transformés au fil des années. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que ce développement logistique, donc il s'appuie sur une infrastructure. Cette infrastructure, elle peut être matérielle. Donc on a des grands ports, on a des zones économiques qui sont dédiées, des plateformes qui vont être dédiées à la circulation des biens, au stockage des biens. Mais c'est aussi, il me semble que c'est important de le mentionner, je dirais, une infrastructure de papier qui s'appuie sur du droit, qui s'appuie sur une conception de comment est-ce qu'on va formaliser les échanges économiques. Par exemple, la propriété intellectuelle, en fait, joue un rôle dans la circulation logistique des biens parce qu'on va définir quel bien a le droit d'être produit à tel endroit et pas à tel autre, quel bien a le droit d'être vendu depuis tel pays vers tel autre, mais pas un pays tiers, etc. etc. Donc il y a un ensemble d'infrastructures qui permettent d'encadrer ce travail, cette pratique de la logistique. Le troisième point qui est important, c'est que la logistique, c'est aussi un ensemble d'objets, de techniques qui permettent de faire circuler tous ces biens. Alors, pour ne citer qu'un seul exemple, le conteneur. Le conteneur, c'est une création des années 50. Il y avait quelques préalables, mais en gros, dans les années 50, on commence à conteneuriser pour faciliter l'intermodalité, le fait de déborder une marchandise depuis un navire vers le rail ou vers du transport routier. Et le conteneur, donc, qui a commencé à être utilisé dans les années 50 et qui s'est imposé dans les années 70 vraiment de façon massive, est devenu un outil tout à fait incontournable de la circulation des marchandises, puisque aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 200 millions de conteneurs chaque année qui sont échangés de par le monde. Et le troisième point sur lequel il me paraît important d'insister, c'est que l'hégémonie de la logistique aujourd'hui est complètement liée à l'importance du commerce international et au fait que dans les années 80 et 90, on a surspécialisé les sites de production. On s'est retrouvé dans une situation où la production d'un même bien peut impliquer parfois une dizaine de pays différents ou une dizaine de firmes situées dans des pays différents, et donc avec des circulations en fait qui se font de façon hyper segmentée, donc de matières premières, de matières secondaires, c'est-à-dire on va dire des pièces détachées pour une voiture par exemple qui va être produite dans un grand nombre de pays différents. Et ça, c'est aussi un autre aspect important de ce phénomène, c'est évidemment le coût de la production. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'industrie pharmaceutique. Quand on regarde un médicament, on a l'impression que c'est un objet qui peut être assez coûteux à produire. En réalité, la production, c'est-à-dire la manufacture du médicament, c'est quelque chose qui coûte à peu près rien, qui rapporte très peu d'argent, parce que c'est principalement fabriqué en Asie, on va dire, en Chine, en Inde. Et que, en fait, tout le travail de valorisation de ces objets, il se joue en fait dans la manière dont on va mettre en forme les réseaux de distribution et les réseaux de distribution qui sont à la fois matériels, comment on les transporte et comment on les valorise dans des pays donnés. Un même médicament produit dans une usine indienne n'aura absolument pas le même prix en fonction du pays où il est vendu, selon les accords commerciaux qui régissent le fonctionnement des échanges entre le pays, entre ce pays et l'Inde.
Ouais, juste donc on va après entrer dans le dur des luttes, mais juste pour que tout le monde se figure bien, parce que peut-être que c'est pas évident, parce qu'il y a une sorte d'opération magique un peu dans la logistique, c'est-à-dire que les biens apparaissent au pas de notre porte, qu'on les commande ou qu'ils soient dans les magasins, ou les biens sont là, ils sont déjà là, il y a quelque chose de magique en fait là-dedans, et le système invisibilise toute la chaîne qui a fait que ces biens déjà ont été produits mais sont arrivés chez nous. Et du coup, ce qui me paraît important pour avoir les échanges ensuite qui vont peut-être se focaliser beaucoup sur la route et l'entrepôt, mais c'est beaucoup plus long et large que ça. Donc si tu pouvais juste revenir un peu sur la cascade ou l'enchaînement qui permet à ces marchandises de sortir de l'usine et d'arriver au pas de notre porte.
Alors le problème, c'est pas que c'est l'usine, c'est que c'est les usines. Et en fait, la circulation de ces biens, effectivement, elle est mondialisée. On va voir, par exemple, si je prends le cas d'un médicament, il va être fabriqué dans une usine indienne, comme je disais, mais en fait, le principe actif qui permet de fabriquer ce médicament, de plus en plus, il va venir d'une usine chinoise, et les différents matériaux d'emballage En général, l'Inde, c'est quand même un grand pays, donc ils ont des capacités de production un peu partout, mais ils vont venir d'une multitude de différents sites en Inde qui fabriquent du carton d'emballage, des blisters d'aluminium, qui produisent différentes matières premières qui vont être nécessaires, je ne sais pas, du maïs, ou qui vont être nécessaires comme excipient, enfin comme complément pour que le médicament ait une certaine stabilité. Et donc ça, c'est une première phase donc, qui permet de, disons, fabriquer le produit. À partir de là, le produit, évidemment, il faut l'envoyer donc, dans différents pays. Il va partir au port, à Bombay ou dans différents grands ports indiens. Et ensuite, de là, il va donc être mis à bord d'un navire. En général, alors ça c'est un point important qui est lié au commerce maritime en particulier, c'est que le commerce maritime, donc pendant longtemps, les ports ont été des sites qui ont été contrôlés par les États. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu une privatisation massive de toutes les opérations liées à la manutention, liées au développement du port. Donc les États souvent conservent disons un droit de regard ou une participation au développement de l'infrastructure portuaire, ce qui permet aussi en fait de les faire contribuer de manière plus ou moins déguisée au développement de l'activité des opérateurs. Mais les opérateurs de manutention, eux, ils vont gérer tout ce qui est le grutage, le déplacement, le développement des zones d'entreposage. Et c'est elles, ces compagnies, donc qui sont des grosses compagnies multinationales, qui sont parfois des filiales des armateurs, mais pas systématiquement. Donc ça, c'est la première étape, c'est la mise à bord des navires. Ensuite, la marchandise va circuler sur des porte-conteneurs. Donc je parlais du nombre de porte-conteneurs qui circulent. On peut souligner le fait que aujourd'hui, on est sur des porte-conteneurs de plus en plus grands. Hein, on a commencé sur des navires qui pouvaient transporter environ un millier de conteneurs. Aujourd'hui, on est sur plus de 20 000 conteneurs d'un coup. De 6 ou 12 mètres, après ça dépend. Mais donc on est vraiment sur des tailles qui sont absolument gigantesques. Donc on parle de méga-navires. Du coup, les méga-navires appellent des méga-ports. Ce qui me permet aussi de rappeler le fait que il y a un point qui est important là-dedans, c'est aussi les enjeux géopolitiques. Hein, c'est évidemment, on parle beaucoup aujourd'hui de l'initiative chinoise Route et Ceinture, Belt and Road, et de la route maritime de la soie. La Chine produit énormément, a un grand nombre de stratégies et de plans pour pouvoir accompagner sa chaîne de distribution et pour pouvoir apporter les biens un petit peu partout dans le monde. Et en fait, ça va avec des investissements très très importants, donc en particulier chinois, dans des ports au Sri Lanka, au Pakistan, en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie, si je ne dis pas de bêtises.
En Grèce.
En Grèce, bien sûr. Non, après avec des prises de participation dans différents pays. Donc ça, c'est un aspect. Et évidemment, avec la réaction des autres pays, c'est-à-dire qu'en réaction aux initiatives chinoises, l'Inde va aussi s'impliquer en essayant de financer des ports, pareil au Sri Lanka, en Iran, à Maurice, pour avoir un petit peu une réponse à apporter aux stratégies chinoises. Donc il y a vraiment des enjeux géopolitiques très très forts autour de ce transport maritime, qui par ailleurs est un transport ultra concentré. Donc là, je parlais des ports et des opérateurs de gestion des ports, mais il faut aussi parler des armateurs. Donc là, pour le coup, on est dans un secteur ultra concentré avec, une dizaine d'énormes compagnies qui sont à plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires par an. Ces compagnies, les principales, sont toutes situées en Europe. Hein, je crois que France, Suisse, Danemark, donc Maersk, MSC en Suisse, CMA-CGM en France. On a aussi pas mal d'acteurs en Asie. Et en fait, ces acteurs construisent, alors ça c'est vraiment un énorme fouillis, c'est-à-dire que ces acteurs vont aussi construire des alliances entre eux, sous forme de prise de participation dans des filiales, sous forme d'accords pour faire tourner des lignes en fait de distribution des biens d'un point à un autre. On a des lignes, disons, régulières en fait qui circulent depuis différents ports chinois, Taïwan, Singapour bien sûr, les Émirats vers l'Europe. Donc un secteur extrêmement concentré. Et donc ça c'est toute la partie avec une main-d'œuvre, bien sûr, dont les conditions de travail sont assez déplorables, qui fonctionne principalement sous forme de freelance, enfin, donc des espèces de, on va dire, d'intérim en fait reconduit en permanence, qui est aussi une main-d'œuvre très internationalisée et largement indienne et philippine. Donc ça, c'est toute la partie transport. Et puis ensuite, bon bah donc les navires, ces méga navires s'arrêtent de port en port et délivrent la marchandise. Et à partir de là, eh ben en fait, on rentre dans un maillage de la logistique si on prend le cas français. Donc on va commencer à avoir des débordements. Juste quelques indications. Disons, une fois que ça arrive en France, en gros, on est à quasiment 90%, si je ne dis pas de bêtises, de transport qui va se faire par voie routière. Le fluvial et le fret rail, c'est ferré, c'est quasiment rien. Je crois que le fret ferré, on est autour d'une petite dizaine de pourcents, et le fluvial, ça va être 2%. Donc ça laisse 88% pour le routier. Et ensuite, tout ça part vers des entrepôts et des sous-entrepôts pour ensuite être délivré. Donc on parle toujours du dernier kilomètre, évidemment, parce que enfin, là, en plus, c'est des évolutions qui sont quand même assez récentes, qui ont été beaucoup impulsées par les acteurs du e-commerce sur cette idée que vous pouvez avoir votre produit à J plus 7, à J plus 1, à J plus quelques heures. Et donc là, évidemment, ça engage le travail, encore une fois, d'acteurs tout à fait précaires. Je ne sais pas si je rentre dans les entrepôts et tout, on en a un petit peu parlé hier, mais disons que c'est pareil, le droit du travail autour de ça est évidemment tout à fait déplorable. La main-d'œuvre, disons, logistique et transport en France, c'est la main-d'œuvre ouvrière la plus importante. Hein, je ne sais plus à combien on est, on doit être à une dizaine de pourcents de la main-d'œuvre ouvrière générale. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis après, ça arrive chez vous.
Merci Mathieu. Donc du coup, peut-être que l'immensité de la chaîne de logistique et son morcellement fait que les luttes du coup vont se concentrer souvent sur un point, l'entrepôt, la route, l'échangeur, etc. Et l'idée de cette table ronde, c'est peut-être de justement dire à chaque fois que c'est l'entrepôt et son monde, la route et son monde, et toujours d'arriver à reprendre ce champ qu'on ne voit plus. Et à partir de là, du coup, peut-être créer des alliances entre luttes qui sont disparates et qui peut-être géographiquement ou sur le thème qu'elles abordent paraissent éloignées, mais ne le sont pas en fait. Et donc pour ça, on a plusieurs collectifs ici présents. Et maintenant, mon rôle va se constituer globalement à donner la parole. Et donc, on va commencer par la coalition des entrepôts logistiques. Donc, je ne sais pas où est Étienne, il est là. Et tu vas nous présenter. Et chacun va présenter un peu en 5 minutes. C'est quoi la lutte en question et son regard sur tout ce qui a été dit jusque-là. Et ensuite, il y aura des échanges plus libres.
Merci beaucoup et bonne matinée à tout le monde. Donc moi, c'est Étienne, donc je suis de la coalition de lutte contre les entrepôts. Donc historiquement, on était beaucoup aussi sur la vente en ligne. Donc je vais faire le lien un petit peu entre les deux aussi. Donc nous, cette coalition-là, pour la décrire brièvement, en fait, elle vise à la fois à rassembler les différentes luttes qui sont battent contre ces entrepôts-là et à partager, à s'entraider des expériences, des formations, à s'apporter du fonds mutuellement et puis se soutenir sur tout ce qui est les différents moyens en fait de lutter, donc le plaidoyer, les recours juridiques, les mobilisations, etc. Organiser aussi des actions communes. Donc voilà, un travail de coalition un peu générique dans lequel je ne vais pas forcément beaucoup m'étaler dessus. Pour apporter un petit peu notre pierre sur ce vaste champ qui est les interconnexions entre les flux de transport, les entrepôts, faut se dire, et en fait ça a été un petit peu déjà mentionné par Mathieu, c'est que le principal point de départ, ça va être forcément les produits et le fait qu'on ait de plus en plus de produits, notamment non alimentaires et aussi pour l'alimentaire bien sûr, mais qui viennent du coup en surcapacité et en surnombre dans nos vies quoi. On assiste à une augmentation constante en fait justement du nombre en fait de produits. Si on parle juste par exemple de l'exemple du textile, ça a doublé en fait, en l'espace de 10 ans. On est passé de 20 vêtements par habitant, qui était déjà énorme, à 40. Donc ça représente à peu près 3 milliards de vêtements chaque année qui sont distribués en France, en tout cas qui sont mis en marché. Donc c'est absolument colossal. Ça c'est juste pour donner cet exemple-là. Donc c'est vrai que le rôle de la logistique, notamment dans les biens de consommation quotidien, va avoir justement ce rôle d'être en surcapacité et forcément donc des produits qui viennent en majorité en fait à l'international et notamment d'Asie Donc, par exemple, si juste sur l'exemple du textile, on a 98% de produits textiles qui viennent de l'étranger. Donc, ça nous place aussi dans une situation de dépendance en l'état. Et pour l'électronique, c'est pareil. Et c'est là où l'essentiel, en fait, de l'impact environnemental d'un produit se situe, en fait, plutôt à l'étranger, sur, bah, en fait, sa fabrication, etc. En tout cas, d'un point de vue environnemental. Mais tout ça, en fait, toute cette fabrication, en fait, elle est causée par justement ce flux logistique, puisqu'il y a besoin en fait de distribuer ces produits une fois qu'ils ont été fabriqués. Et s'il n'y avait pas de possibilité de les distribuer, en soi, en fait, la production serait réduite, quoi. Donc, en l'état, on arrive à un flux qui est de plus en plus important. On a aussi une volonté en fait de l'état de développer justement en fait ces infrastructures d'entrepôt pour pouvoir en fait justement distribuer ces produits. Et en fait, c'est un enjeu qui est assez multiple, qui est un enjeu à la fois pour les collectivités, justement, en tout cas, c'est de faire face en fait à la baisse de dotation qu'elles ont depuis plusieurs années, donc de rentrée fiscale en l'état, hein, et donc d'accepter ces projets. D'accepter ces projets pour ce qui est vendu comme pour faire bénéficier les services publics locaux, donc c'est notamment du coup les cantines, les choses comme ça. C'est une rentrée fiscale en l'état. En tout cas, c'est l'argument que les collectivités vont utiliser. C'est aussi un enjeu en fait d'emploi, notamment dans des zones dans lesquelles elles sont, dans lesquelles en fait il y a de plus en plus de polarisation de l'emploi vers les grandes villes, vers les agglomérations ou vers les villes d'importance. Et les entrepôts vont avoir cette tendance à soit certes s'installer en périphérie, mais surtout en fait dans des zones rurales à proximité, évidemment. D'autoroutes, en tout cas de moyens en fait pour pouvoir fluidifier le trafic, quoi. Donc c'est quand même des constats qu'il faut avoir en tête parce que ça a quand même une incidence sur le discours qu'on peut porter, ne pas être déconnecté des enjeux d'emploi, en tout cas de création d'emploi dans les projets alternatifs qu'on peut proposer, et aussi bah, du coup voilà de ce constat en fait que les collectivités et leur manne financière est en chute constante. Ensuite, pour poursuivre et pour terminer un petit peu là-dessus, ça a été un petit peu abordé aussi, c'est qu'en fait, en effet, on se retrouve à avoir différents types d'entrepôts. Des gros entrepôts de stockage qui aujourd'hui, en fait, on assiste à une augmentation en fait, de la taille aussi de ces entrepôts-là. Auparavant, on était plutôt sur des entrepôts qui, pour les plus gros, étaient entre 30 et 50 000 m². Maintenant, on arrive régulièrement à avoir des plus de 150 000, voire 200 000 m². C'est-à-dire des très 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 gros entrepôts. Et pas seulement pour le e-commerce, même si le e-commerce a d'abord en fait initié, enfin les gros entrepôts Amazon ont été un petit peu les premiers avec ces discounts à arriver. Mais aujourd'hui on se retrouve aussi à avoir de très gros entrepôts de logistique, pas forcément e-commerce. Et c'est aussi parce qu'en fait il y a eu une volonté de la part de l'État de faciliter l'implantation de ces gros entrepôts, de simplifier en fait les autorisations environnementales. Par de multiples lois, je ne vais pas forcément les détailler, mais ça s'est passé vraiment dans les 5-10 dernières années, quoi. Donc en plus de la simplification des autorisations, on a aussi une simplification de la fiscalité, c'est-à-dire qui s'est encore grossi en fait, cette année, avec les fameux impôts de production, dont on a entendu parler, qui ont été supprimés lors de la dernière loi de finances. Normalement, en fait, ça c'est quand en fait, moi j'implante un entrepôt, admettons que je suis un aménageur ou du coup un exploitant, je vais payer en fait, des impôts aux collectivités, donc je ne vais pas vous détailler, il y en a plein, mais qui vont aller directement financer tout ça, quoi. Sauf qu'en fait, ils ont été divisés par deux en 2019, et là, sur la CVAE, donc ce fameux impôt de production, il a été supprimé complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ça facilite en fait, l'implantation sur les territoires, quoi. Et donc ça c'est pour les gros entrepôts, et donc on a ceux-là qui servent à stocker, on a les fameux entrepôts intermédiaires en fait qui sont ce que nous on appelle des centres de tri, en soi qui vont dispatcher en fait dans une zone un peu plus large, qui est plutôt sur un champ régional, là où les gros entrepôts peuvent avoir un rôle national. Et ensuite on va retrouver donc les fameux derniers entrepôts du dernier kilomètre, et là on va avoir en fait des tailles variables. En l'état sur les gros entrepôts, en tout cas pour la logistique e-commerce, on va être entre 100 et 200 000 m². Pour les centres de tri, on va être autour de 30 000. Et pour le dernier kilomètre, qui est là, sont les entrepôts qu'on a plutôt en périphérie des villes, on est entre 3 et 7 000 m², quoi. Voilà, on passe du 1 à 40 fois plus grand, quoi. Et pour clôturer, tout ça en fait nécessite forcément des aménagements routiers dont les autres intervenants intervenantes auront l'occasion d'en parler. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que systématiquement, quand pour faire accepter un projet dans lequel en fait, bah, auprès de la population, dans lequel il va y avoir forcément énormément de camions qui vont circuler avec une saturation routière qui est déjà présente, il y a donc une corrélation directe, c'est qu'on ne peut pas forcément autoriser un gros projet s'il n'y a pas eu d'aménagements routiers qui ont été effectués, que ce soit bon, des ronds-points, que ça puisse être aussi des contournements, des barrières de péage pour dévier en fait la route, pour éviter qu'elle passe dans les villes, et voilà, donc tout un tas en fait d'aménagements, aussi des renforcements en fait des routes, parce que les flux de camions vont forcément détériorer plus rapidement la chaussée que bah voilà, un trafic régulier. Mais ça crée aussi quand même et toujours des embouteillages et une saturation routière, quoi. Voilà.
Merci. Du coup, je passe maintenant la parole au collectif, je crois que c'est Stop Green Dock, Berge de Seine. Donc Green Dock à Gennevilliers, à côté de Paris, et qui s'inscrit dans l'axe Paris-Le Havre, qui est revitalisé, développé, etc. Et qui a des liens aussi avec les luttes en ce moment à Rouen. Enfin voilà, donc je te laisse prendre la suite.
Bonjour. Alors nous sommes Séverine et Delphine du collectif Stop Green Dock. Voilà, moi je suis aussi élue au pôle écologie à l'île Saint-Denis. Donc c'est un exemple d'une lutte assez récente, c'est un nouveau gros bébé en fait qui est né à Gennevilliers, sur le port de Gennevilliers, mais les caractéristiques de cet entrepôt c'est qu'en fait il est sur les berges de Seine. Voilà, donc par rapport aux échelles que nous donnait Étienne, c'est assez intéressant parce que c'est un entrepôt qui est gros, enfin voilà, nous les dimensions qu'on connaît d'abord, c'est sa hauteur, c'est 35 mètres sur un fleuve qui est pas très grand à ce niveau-là, surtout puisque c'est en partie sur un bras et ensuite au niveau de la confluence en fait des deux bras de Seine. Il se trouve donc en face des berges de Épinay-sur-Seine et aussi en face de la pointe nord de l'île Saint-Denis, qui est une zone Natura 2000. Voilà, donc sur le parc, l'îlot qui est une zone écologique expérimentale, et tout à la pointe nord, une zone qui est non anthropique. C'est la première zone non anthropique en fait à l'aval de Paris, c'est-à-dire où les humains n'ont pas le droit de pénétrer, dans lequel il y a des espèces protégées, le martin pêcheur, le grand cormoran, etc. Donc c'est un lieu qui est en petite couronne, donc c'est un gros entrepôt, je crois que c'est 80 000 mètres carrés, c'est ça, pour un lieu de petite couronne qui prévoit en fait d'être à la fois un gros lieu de stockage, mais aussi de desservir Paris. Alors la petite couronne de Paris, on est historiquement le territoire servant de Paris, surtout Laval. Et ça, ça va être intéressant parce qu'au niveau politique, le maire de Gennevilliers, par exemple, lui, il accepte d'être territoire servant. Il y a le port sur son territoire. Il veut développer l'emploi. C'est un maire qui est communiste. Hein. Et il y a d'autres maires, comme celui de l'île Saint-Denis, qui est écolo, qui lui refuse d'être d'être un territoire servant. Et il y a un projet aussi de bras de loisir en fait sur le petit bras de Seine, donc le transport passe de l'autre côté, le transport fluvial, parce que personne n'est contre le transport fluvial en fait, mais il y a aussi cette volonté de rendre l'accès à l'eau, l'accès aux berges, l'accès à la baignade, aux loisirs nautiques à la population, rendre une culture populaire de l'accès aux berges. Donc il y a tout ça qui se frotte un peu. Et je vous parlais un petit peu des différentes échelles en fait de cette lutte, parce qu'au début, alors ça a été découvert entre guillemets par hasard en fait par des riverains qui ont vu qu'il y avait ce projet de grand entrepôt, des riverains de l'île Saint-Denis. Donc les premiers à rentrer en lutte, c'est un peu l'hyper local, c'est-à-dire les gens qui ont leur petit pavillon sur les berges d'Épinay-sur-Seine. C'est pas une commune. Voilà, c'est le 93 en fait, et Gennevilliers c'est le 92, donc ça dit aussi des choses sur cette lutte-là. Donc les riverains qui se disent sous mes fenêtres il va y avoir un entrepôt qui va me donner beaucoup d'ombre en fait à certaines saisons. Et puis petit à petit la lutte s'est agrandie. Il y a eu d'autres échelles. Et je dirais un peu, pas un aboutissement, mais une étape importante, c'est de se retrouver ici parce que on s'aperçoit qu'en fait tout est en interconnexion. Et donc on va s'intéresser pas simplement à la protection des espèces naturelles, même si c'est un peu le fer de lance de la lutte, parce que c'est ça qui va beaucoup interpellé en fait la population. Quand on demande de signer la pétition, les espèces à protéger, et c'est super important, c'est ce qui va peut-être sensibiliser beaucoup. Après, il y a, à travers ça, il y a aussi les luttes contre cet hyper-commerce, cet hyper-capitalisme, la lutte aussi pour ce travail précaire, parce que l'emploi que ça développe, c'est un emploi qui est à 80%, c'est des hommes, c'est du travail précaire, c'est les gens qui travaillent dans l'entrepôt logistique, qui sont très peu organisés syndicalement. Et après, au niveau des échelles, il y a quand même aussi assez vite eu des associations de lutte pour l'environnement. Donc, il y a FNE 93, 92 aussi. Il y a aussi, je dirais, l'aspect politique et l'aspect médiatique qu'on a pu développer assez rapidement. Et dans un événement qu'on a, qui a été le 4 juin, qui a rassemblé pas mal de collectifs, pas mal d'élus locaux, le député. Et après, on a vraiment des perspectives et le collectif Pleine Tempête aussi du 93 s'empare de ce mouvement-là. Il y a Youth for Climate qui est rentré aussi dans la lutte. Donc on se dit que c'est une lutte qu'on peut gagner. Je vais laisser la parole à Delphine qui va vous expliquer un peu pourquoi cet entrepôt s'appelle Green Dock.
Et ça nous fait tous rêver, ce nom de Green Dock. Alors, pour revenir vers le transport, en effet, c'est green parce que c'est du transport fluvial. Or, comme le dit Étienne et comme on le sait, pour avoir un colis en 24 heures, le transport fluvial, c'est pas la meilleure solution. Donc, les promoteurs eux-mêmes ont créé des ateliers pour nous l'année dernière pendant plusieurs mois pour essayer de nous convaincre. Et ils nous ont bien dit qu'au maximum, ce serait 15% du transport qui serait fluvial. Et on sait, comme tu dis, que ce sera évidemment moins. Donc on imagine la région parisienne qui est déjà une zone, enfin, et même le nord de Paris puisque c'est là où on est, qui est déjà une zone saturée, maintenant en permanence avec des embouteillages tout le temps. Donc on imagine que c'est un flot de camions qui viendront, à peu près 500 camions nuit et jour, c'est 24 heures sur 24. C'est en effet pour éventuellement le e-commerce et aussi le commerce de proximité du kilomètre zéro, du kilomètre vert vers Paris, avec des véhicules légers qu'on nous promet électriques. Donc il y a cet aspect-là et l'aspect fluvial qui sera quasi inexistant. Donc c'est évidemment ça qui nous a mobilisés. Alors l'autre aspect green, c'est évidemment au départ du projet, une ferme bio sur le toit des 35 mètres de haut. J'espère que vous apprécierez. Et au-dessus de cette ferme, des panneaux solaires, puisque évidemment, on est écolo ou on ne l'est pas. Et donc, la ferme, bizarrement, ils ont arrêté le projet de la ferme, ils ne nous en parlent plus. Ils nous ont dit qu'ils allaient morceler le bâtiment en trois bâtiments pour que ce soit plus agréable en bord de Seine. Et nous, on est toujours vent debout contre ça, contre ce projet totalement. Et puis, le lien qu'on peut faire entre le transport fluvial et puis la saturation de toutes les routes localement, c'est le lien avec une autre lutte qui s'appelle « Vivre sans le bip », dont tu parleras probablement, qui est justement des morcellements de création d'autoroutes pour faciliter l'arrivée dans cet entrepôt. Donc en ce moment, il y a des petits morceaux, des tronçons de route qui se construisent, qui s'améliorent pour accueillir plus de camions. Donc il y a une lutte qui aura lieu, un rassemblement qui aura lieu le 7 octobre, et t'en parleras sans doute. Bon, tous ceux qui peuvent venir vers la verdure pour montrer que c'est un lieu de promenade, un lieu de verdure, un lieu de biodiversité, et vraiment, c'est l'essentiel de notre vie, quoi. Voilà.
Ouais, on va passer très rapidement du transport fluvial au transport ferroviaire. Et donc, je vais passer la parole sur l'axe Lyon-Turin.
Bonjour, je m'appelle Daniel Ibanez et je suis ici avec Brigitte Finas, qui est également à Attac, et sans doute des copains que je n'ai pas identifiés. Mais enfin, voilà, je salue tout le monde. Et alors nous, on se bagarre pour l'utilisation d'une voie ferrée existante, parce que le projet Lyon-Turin, c'est un projet de nouvelle ligne. Alors d'habitude, je commençais par expliquer ce qu'était le projet, et en fait, on s'aperçoit que c'est une connerie, parce que c'est un piège. C'est un piège politique de parler du projet et de se positionner comme opposé au projet, alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a une ligne existante et que cette ligne existante est utilisée 5 fois moins que ce qu'elle était dans les années 2000, et alors qu'on a mis 1 milliard d'euros d'investissement sur l'infrastructure. Voilà, alors après, donc en fait, c'est ça qui montre l'inutilité. Notre lutte du Lyon-Turin s'est beaucoup investie, notamment sur le collectif des grands projets inutiles et imposés qui s'est beaucoup développé dans les années 2014-2015, où on avait des forums annuels. Donc le Lyon-Turin, avec le mouvement Notav en Italie, avait ça. Et alors, on est vraiment le vilain petit canard, faut le dire. Parce que la vérité, c'est que le train, c'est bien. Eh oui, le train, c'est bien. Et alors, tu te bats contre un projet ferroviaire. Et alors là, c'est mal. Et voilà. Et voilà, alors là, on a nos petits camarades, y compris des syndicalistes cheminots, qui disent le train, c'est bien. Alors, on leur dit, oui, c'est quand même un partenariat public-privé. Oui, mais on va se battre contre. Bon, d'accord, c'est sympa. On sait qu'on a beaucoup gagné, d'ailleurs, ces derniers temps sur pas mal de combats de ce genre. Alors, le Lyon-Turin, qu'est-ce que c'est? C'est quand même 260 km de tunnel à creuser pour aller plus vite jusqu'en Ukraine de la partie espagnole. Parce qu'en fait, on parle du Lyon-Turin, mais en fait, il y a des projets européens qui s'appellent des corridors ferroviaires. Et ces corridors, ils ont pour but de pouvoir traverser l'Europe avec des marchandises pour aller toujours plus loin. Alors, tu parlais tout à l'heure de la route de la soie maritime, que comme vous savez, les lobbyistes sont malins. Ils ont dit, ah ben nous, on va faire la route de la soie ferroviaire. Bon, alors, si vous regardez sur une map monde le trajet entre la Chine et Lyon, bon, c'est compliqué parce qu'il faut quand même traverser quelques mers, quelques territoires. Alors en fait, ça passe pas du tout par là, ça passe par la Russie et ça arrive par Paris, bien sûr, en étant passé par l'Allemagne. Je fais juste une petite incidente parce qu'on a parlé de plein de choses sur les entrepôts, sur la logistique et tout ça. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est celui de la robotisation. Et je dis ça parce qu'à chaque fois, on dit on fait des entrepôts, c'est les camarades du PC, hein, souvent pour l'emploi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul entrepôt qui se monte aujourd'hui sans qu'il y ait des robotisations qui soient mises au programme. C'est-à-dire qu'en fait, les entrepôts, c'est la destruction de l'emploi. Je dis ça parce que, voilà, essentiellement, c'est ça. On a de moins en moins de personnes. Si on prend, y compris les ports, si on prend Rotterdam, ce sont que des AGV, c'est-à-dire des robots de transport qui circulent tout seuls sans chauffeur dans tout le port. Voilà, donc je dis ça parce que c'est une petite incidente, excusez-moi. Alors donc nous, en fait, le projet Lyon-Turin, c'est d'artificialiser des terres agricoles pour aller chercher du blé en Ukraine qu'on aurait pu produire sur ces mêmes terres. Et donc c'est un truc super dans l'air du temps, voilà. Et donc nous, voilà, assez simplement, on se bagarre pour l'utilisation de la voie existante. Parce que très franchement, la voie existante permet de faire rouler des trains à 80 km/h. Et que là où, contrairement, on a expliqué, alors je le dis parce qu'assez fréquemment, on parle d'explosion du trafic routier de marchandises, ce qui est vrai de manière générale, ce qui est faux sur la partie entre la France et l'Italie. C'est faux pour plusieurs raisons. La première étant que quand on ferme les hauts fourneaux et qu'on ferme les laminoirs en France et qu'en Italie, on ferme les usines Fiat, nous, on envoie moins de tôles et eux nous renvoient moins de bagnoles. Et en fait, les bagnoles, elles arrivent par les ports puisqu'on les a délocalisées au Maghreb, etc., etc. Et donc, en fait, plus on a délocalisé en Europe et moins, en fait, on a d'échanges intra-européens et plus ce sont, en fait, des trafics nord-sud. Ceux qui augmentent et qui explosent, les trafics routiers, sont des trafics nord-sud, notamment sur la banane bleue, c'est-à-dire les ports de Trieste et de Gênes, qui vont commercer et remonter, puisque ça arrive du canal de Suez, qui vont arriver jusqu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des tunnels à grand gabarit qui sont sur ces axes-là. Et en fait, si on regarde les chiffres depuis 1995, 94, 93, en fait, aujourd'hui, entre la France et l'Italie, par les Alpes du Nord, tunnel du Mont-Blanc et tunnel du Fréjus, vallée de la Maurienne, vallée du Mont-Blanc, pour ceux qui situent mieux comme ça, en fait, on a aujourd'hui le même nombre de poids lourds que ce qu'on avait en 1993. C'est-à-dire que c'est un plafond. Et ce qui est intéressant en matière d'infrastructure et de flux, c'est qu'en 2000, on a ouvert une autoroute 2x2 voies. Et en fait, l'ouverture de l'autoroute n'a pas amené du tout d'augmentation de trafic. Je dis ça parce qu'il y a une illusion qui est qu'en matière de fret, l'infrastructure va créer l'augmentation de la marchandise. En fait, ce qui crée l'augmentation, c'est des lieux de production et des lieux de consommation. Alors après, vous avez parlé un petit peu, parce que nous, bien sûr, il faut que ce soit bien sur tous les points, hein, le projet qu'il nous présente. Donc, c'est très, très bon pour le tourisme. Et donc, j'ai vraiment apprécié le truc de territoire servant, parce que j'ai développé un truc dans une conférence il n'y a pas longtemps sur le tourisme. Et moi, je parlais de servitude volontaire. Donc, voilà, on est bien exactement sur le même mode. Et c'est exactement ça, parce qu'on nous présente, bien évidemment, le projet également nécessaire pour le développement touristique, mais je vous invite, parce que c'est intéressant sur le flux des passagers, d'aller voir la définition du mot tourisme pour l'INSEE. C'est en fait se déplacer pour exercer son loisir. Et j'ai fait une conférence là-dessus, j'ai dit, mais continuez comme ça pour la transition des stations de ski qui n'ont plus de neige, comme vous le savez. Donc les mecs, ils cherchent un autre loisir à vendre à quelqu'un qui viendrait utiliser. J'ai dit, en fait, le tourisme, si vous passez plutôt sur l'idée que le tourisme, c'est découvrir une culture et des territoires, ça va vous changer complètement l'appréciation de vos flux de transport et du truc. Parce que actuellement, comme c'est pour exercer un tourisme, ben, bien évidemment, on vend le territoire au plus offrant. Et vendre le territoire au plus offrant en matière de tourisme pour justifier le Lyon-Turin, eh bien, ça va être, par exemple, d'augmenter les prix de l'immobilier, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus personne qui peut se loger en montagne, puisque forcément, l'immobilier étant de l'immobilier défiscalisé, etc. Enfin, tout ça coûte très cher, tout ça, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est contre un projet qui est bien parce que c'est du ferroviaire, mais on est surtout pour l'utilisation du ferroviaire tout de suite et maintenant. Et si on a peut-être une petite chose différente avec d'autres mouvements, c'est qu'on est allé voir les transporteurs routiers qui disent également, nous, on veut passer sur la voie ferrée. Je pourrais répondre à des questions sur ce petit truc qui est un petit peu spécial chez nous. Et on a même signé avec les Amis de la Terre une demande de mise en place de navettes ferroviaires sur la voie existante avec la FNTR, Fédération Nationale des Transporteurs Routiers. Voilà. Peut-être un dernier mot pour vous dire que le Lyon-Turin, bien évidemment, comme c'est un projet européen, c'est aussi un projet pour lequel on a quelques rapports sur la nécessité d'avoir un grand gabarit pour pouvoir transporter les tanks sur les trains. Parce que quand même, en cas de conflit, tu parlais tout à l'heure de l'histoire et de l'implication des militaires dans les réseaux de transport. Voilà, le Lyon-Turin est aussi une des infrastructures qui est bien sûr envisagée pour le transport de marchandises. Après, ben, voilà, un des points importants qui nous semble, en tous les cas à nous, et c'était notre démarche au sein du groupe des GP2I, les grands projets inutiles et imposés, c'est la mutualisation entre nos mouvements, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses. Et à ce titre-là, et j'en terminerai là-dessus si vous me le permettez, nous sommes à l'origine de recours devant les juridictions administratives. Parce que, en fait, en France, sur les réseaux de transport, on a une loi qui s'appelle la loi d'orientation des transports intérieurs, qui date du 30 décembre 82, ça fait un moment, qui impose à l'État, enfin, au maître d'ouvrage, mais sous la directive de l'État, de faire, pour chaque infrastructure qui a bénéficié de financement public, un bilan des résultats économiques et sociaux 5 ans après la mise en service. Et alors, c'est intéressant parce que dans tous les projets ferroviaires, le bilan n'est jamais fait. Il n'est jamais fait, et ce n'est pas pour rien en fait qu'il n'est pas fait, parce qu'il est d'une certaine manière l'explication de la dette de 70 milliards d'euros de la SNCF, qui en fait fait les projets pour faire plaisir aux élus, qui ont décidé qu'il leur fallait une gare TGV, une ligne TGV, machin, etc. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on vient de faire condamner l'État à 4 fois, à 4 reprises, ils ont été condamnés à publier les bilans. Et très franchement, ces bilans sont intéressants parce qu'ils nous servent réellement dans l'analyse de nos luttes et pour justement dénoncer les prévisions fantaisistes ou fanfaronnes. Voilà. Donc, bon, je répondrai aux questions après. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long.